Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Imaginez une petite cour intérieure verdoyante et boisée, quelques petites bougies sur la table, bisques d'huîtres et grenades soufflées dans vos assiettes. Vous êtes dans la cabane de Dulwich, restaurant londonien qui, 6 mois après son ouverture, s'est retrouvé à la place de numéro 1 sur le site TripAdvisor. Et pourtant, la bisque d'huître et le soufflet de grenade sont préparés à base de mousse à raser, de peinture et de tablettes d'eau de Javel. Cette cabane de Dulwich est en fait l'œuvre d'un journaliste londonien curieux de voir jusqu'où il pouvait piéger le site de voyage. De belles photos bien cadrées, des avis rédigés par des amis, et puis un soir, de vrais clients se présentent à sa porte. Le journaliste s'empresse de leur servir des plats surgelés, les commentaires ne déchantent pas, jusqu'à ce que le faux restaurateur lui-même révèle la supercherie. Il y a dans cette histoire cette notion de confiance que le voyageur 2.0 préfère accorder à ses pairs plutôt qu'aux experts du secteur. Il y a aussi cette volonté de découvrir via les réseaux sociaux des territoires qu'on a envie de croire encore quasi vierges, hors du circuit, et qui se retrouvent très vite pourtant au centre d'un parcours touristique documenté à coups de photos sur Instagram, de récits à la première personne sur un blog ou sur Facebook. Une résistance à la solitude autant qu'un désir de validation de son image d'aventurier. Qu'est-ce que les réseaux sociaux ont fait au voyage et aux voyageurs ? C'est notre sujet du jour au terme d'une semaine consacrée sur notre antenne au thème des explorateurs. Et ils sont 3 pour en parler ce soir. Saskia Cousin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris-Descartes et au Centre d'anthropologie culturelle. Vous travaillez notamment sur l'économie de l'altérité, ce qui concerne le tourisme, la coopération internationale et l'inhospitalité notamment. En face de vous, Nawel Chaouni, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication. Votre objet d'étude, c'est l'influence des usages des médias sociaux sur les dynamiques culturelles des touristes et des diasporas. J'ai oublié de préciser que vous étiez à l'université de Toulouse, Capitole 1. Oui. Et notre troisième invité, c'est Sylvain Vénère. Bonsoir, par téléphone.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine, directeur du LUCI, laboratoire universitaire Histoire, Culture, Italie, Europe, qui est rattaché à l'université de Grenoble. Et on peut notamment citer votre Histoire du monde au 19e siècle, ouvrage publié cette année chez Fayard et co-dirigé avec Pierre Singaravelou. Alors, il s'agit ici de voir comment les réseaux sociaux et les mises en scène de soi, la solitude toujours remise en cause par la connexion, peut déformer et transformer les paysages du voyage. Aujourd'hui, Saskia Cousin, c'est vous, je le disais au début d'émission, mais c'est vous qui le dites, que les pairs ont remplacé les experts en termes de confiance. Autrement dit, on préfère se référer à l'avis des autres voyageurs, en quelque toujours son parcours prévu sur ce que les autres ont fait avant nous, en suivant aux commentaires positifs sur des sites comme Airbnb, TripAdvisor, etc. Qu'est-ce que ça implique sur l'imaginaire du voyage aujourd'hui, Saskia Cousin ?
Qu'est-ce que ça implique sur l'imaginaire du voyage ? Bon, il y a toujours eu des héros, hein, des voyageurs qui n'étaient pas des experts au départ. Et puis, ces experts se sont professionnalisés, sont devenus des guides. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a un passage, on a toute une période où il y avait une professionnalisation du voyageur expert qui en avait fait un métier, des professionnels de l'hébergement, des professionnels du circuit de visite. Et puis, petit à petit, avec l'avènement des médias sociaux, il y a une transformation parce que aujourd'hui, mais c'était le cas avant, mais ça prend une dimension beaucoup plus importante, on va faire plus confiance à ceux qui nous ressemblent. Et ça, les réseaux sociaux, les médias sociaux, on fait exploser ce phénomène qui existait déjà avant. Donc là, il y a une transformation, on peut dire, qui est marquée par les médias sociaux, plus que tout le reste. Ça ne va pas forcément changer la destination, mais ça va changer l'image qu'on va avoir de à qui on peut faire confiance. En fait, quand on se penche sur les images qui sont véhiculées, elles sont très peu différentes de celles qui sont véhiculées par les experts.
C'est-à-dire ?
On va avoir les mêmes lieux, souvent les mêmes photos. Je parle des hauts lieux, peut-être pas l'œuvre dont vous avez parlé tout à l'heure, hein, mais les hautes destinations, par exemple les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a eu un accord avec TripAdvisor où les internautes peuvent voter en fait pour les sites qui sont les plus importants pour eux, et qu'on analyse les récits, les commentaires de ces lieux, ben finalement c'est les plus hauts lieux qui sont commentés de la même manière, avec en fait encore plus de poncifs que ceux qui avaient pu être élaborés par les experts, et en fait très peu vont être commentés, mis en avant par des amateurs. Donc il y a une espèce de mimétisme des profanes par rapport aux experts, mais on va plus leur faire confiance parce que on se dit qu'ils sont pas là pour nous vendre quelque chose,
qu'ils
nous donnent quelque chose,
et qu'ils consomment la même chose,
qui s'intéressent aux mêmes choses que nous, et que donc on peut plus leur faire confiance parce que en fait c'est plutôt lié à une défiance vis-à-vis du monde marchand.
Nawel Chaouni, est-ce qu'il y a dans ce paysage d'images et de récits qui nous parviennent via les réseaux sociaux, les médias sociaux, comme le disait Saskia Cousin, qui est tout de même plus juste, est-ce qu'il y a encore un espace alloué à l'inconnu, au non représenté ?
Forcément. Tout ce qui est imagé, illustré, n'est pas forcément représenté. En fait, les images entrent dans le cadre de représentation de l'usager, des usagers des médias sociaux. Et en fait, ces images, ces vidéos, etc., en fait, j'ai envie de dire, justement, les médias sociaux offrent deux éléments importants, selon moi. Le premier, c'est justement la démocratisation de l'information par les usagers. Tout le monde, aujourd'hui, peut publier une image, une photo, une vidéo, d'une manière très rapide, et avoir une audience assez, finalement, assez grande. Voilà. Et le deuxième élément est la connexion entre les individus. On parle de réseau social, donc dans le sens sociologique du terme, c'est-à-dire les amis, la famille, etc. Et on a de plus en plus des personnes qui se connectent entre eux sans se connaître forcément autour de centres d'intérêt qui peuvent être autour de sites internet, de sites touristiques, etc. Et donc les personnes se connectent sans forcément se connaître.
Sylvain Vénère, dans un de vos articles intitulé « Qu'est-ce que l'éloignement ?», vous étudiez entre 1850 et 1940, donc bien loin des médias sociaux, le rôle que jouent de ce qu'on appelle les blancs de la carte, les territoires qu'on ne connaît pas encore et qui restent à situer, à dessiner sur la carte. Et vous écrivez que combler ces blancs, ça compte comme une valorisation de l'aventure. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui valorise le voyage ? Est-ce qu'on peut encore parler d'aventure ?
Sans doute, oui, puisque c'est quelque chose d'étroitement individuel. Chacun voit ça un petit peu à sa porte, même si on peut évidemment repérer des évolutions socialement inscrites. Là, ce qui est intéressant dans ce qu'ont dit les deux intervenantes précédemment, c'est que cette idée que le temps des experts serait fini, en quelque sorte, c'est une histoire un petit peu longue du voyage qu'on ferait partir depuis le XVIe siècle, on verrait bien qu'on revient pour partie à d'anciennes pratiques du voyage, cette espèce de d'aristocratie des voyageurs des XVIe, XVIIIe siècle qui parcouraient toute l'Europe dans ce qu'on a fini par appeler le Grand Tour dans la seconde moitié du XVIIe siècle. C'était des gens qui se déplaçaient pour aller voir en réalité les mêmes lieux, des lieux qui étaient codés par leurs études, et qui se déplaçaient avec des lettres de recommandation. Et c'était par cette espèce de réseau d'individus, en quelque sorte, que s'organisait la géographie du tourisme, un tourisme qui était centré en grande partie sur l'Italie. Et ce que Saskia Cousin décrivait tout à l'heure, c'est pour partie un retour à ces formes-là, mais dans le cadre d'une réaction à un processus qui s'est mis en place dans la seconde moitié du 19e siècle, et que... votre seconde intervenante a bien fini par le terme de démocratisation. Mmh. C'est-à-dire qu'on s'est mis à parler de démocratisation du voyage d'agrément ou de démocratisation du tourisme à partir des années 1860. Et le vecteur de cette démocratisation, ça a longtemps été ce qu'on s'est mis à appeler pratiquement dans le même temps l'industrie du tourisme. Et ce que créent, me semble-t-il, les réseaux sociaux, en tout cas dans la façon dont je peux observer ça en citoyen lambda, si vous voulez, et en touriste moi-même, c'est à la fois une réaction face aux formes prises par le processus de démocratisation du voyage d'agrément dans la seconde moitié du XIXe siècle, mais qui n'est pas non plus exactement un retour, évidemment, au tourisme aristocratique des temps modernes, mais il y a quelque chose de neuf qui s'invente en ce moment à partir de ces traditions anciennes.
Saskia Cousin, on part de vieilles, d'anciennes pratiques du voyage. Vous parlez, vous aussi, de démocratisation. Vous dites qu'on est à la fin d'une phase où les experts avaient la main et où aujourd'hui, ce sont des voyageurs qui, en fait, nous dictent les règles du voyage.
On peut reprendre les processus, l'analyse de la sociologie de la culture où on a une phase, on a une phase, comme l'a dit Sylvain, qui commence au milieu du 19e, c'est la démocratisation des vacances, qui en fait commence vraiment pour tout le monde aux années 50, mais dans l'esprit, effectivement, elle commence un siècle plus tôt. Donc un accès de plus en plus de monde jusqu'aux années 90 au départ en vacances, qui est lié aussi aux luttes sociales. Et puis, depuis une dizaine d'années, un tassement du taux de départ et une baisse, en fait, du nombre de gens qui partent en Occident. Par ailleurs, on a une démocratisation des vacances dans le reste du monde. Mais ce qui est en train de se passer avec les médias sociaux, c'est qu'on passe d'une démocratisation des vacances à une démocratie touristique. C'est-à-dire que c'est plus l'idée qu'il y a des gens qui ont légitimement la fonction de dire à tout le monde ce qu'il faut partir et comment il faut partir, mais que chacun a légitimité à dire comment il part, avec qui il veut partir, et il a la même légitimité qu'un expert. Et ça fait une reconfiguration où on a, comme depuis toujours, la constitution de communautés qui voyagent pour des entre-soi, avec des logiques distinctives, mais qui ne sont pas les mêmes. Quand on a travaillé un peu sur la communauté d'échange de maisons, donc à l'échelle globale, je crois que c'est 65 000 personnes qui échangent leurs maisons. Ces personnes, elles font une communauté globale. Il y a plein de sites qui font ça, et donc il y a un entre-soi global. Et au sein même,
qui repose sur la confiance.
Qui repose sur la confiance totale, où les gens échangent leurs maisons pendant les vacances. Ils ne se voient pas, mais des fois, ils se voient après. Et puis en fonction des sites, ça va être spécialisé plutôt universitaire, dont des sites comme Home Exchange, une des responsables de Home Exchange m'expliquait qu'il y avait la communauté des canapés blancs, c'est-à-dire des gens qui ont des canapés blancs, qui n'échangent qu'avec des gens qui ont des canapés blancs, parce que ça dit quelque chose du rapport à la propreté, vous voyez. Donc en fait, au sein de, enfin, on n'a plus la communauté des habitants ou d'une certaine aristocratie londonienne, etc., mais on a des communautés globales, mais qui sont aussi distinctives et aussi exclusives, parce qu'ils ne partiront jamais avec leurs voisins, où l'aventure, ça va être combler des blancs, ou plutôt voyager autrement, mais ça ne sera pas passer le périphérique. Donc la communauté, elle est globale. Tout le monde a légitimité dans son champ à lui à dire quelle légitimité, mais vous n'allez pas suivre la vie de quelqu'un dans lequel vous ne reconnaissez pas un rapport de même, de pair, P-A-I-R. Et donc c'est en ça qu'on peut parler de démocratie touristique, mais c'est aussi d'une certaine manière la fin, parce qu'il n'y a plus de politique sociale des vacances, de la démocratisation des voyages.
Parce qu'elle est prise en main par les voyageurs elles-mêmes.
Parce qu'elle est prise en main, non, parce qu'elle est prise en main, elle était prise en main, comme l'a dit Sylvain Ménard, par l'industrie de masse, le voyage de masse, les campings, etc. Et maintenant, elle est prise en main par des plateformes mondiales qui ont pour fonction, en fait, d'organiser ces communautés et de faire de l'argent dessus. Et donc, finalement, eux, ils ont compris, d'un point de vue financier, qu'on pouvait faire de l'argent, non pas sur la structure, mais sur sur les échanges.
Sylvain Vénère, vous voulez intervenir, d'après ce que j'ai entendu.
Parce que ce qu'on retrouve aussi, c'est quelque chose qui, au principe même du tourisme tel qu'il s'élabore au début du 19e siècle, c'est-à-dire une pure stratégie de distinction. C'est-à-dire que au plein temps des voyages de masse contre lesquels réagissent une partie des usagers des réseaux sociaux aujourd'hui dès lors qu'ils veulent voyager à l'étranger, on avait toujours inventé des raisons, et depuis le milieu du 19e siècle, ou des façons de voyager qui permettaient d'assurer l'assomption de l'individu par le voyage, en quelque sorte. Hein, c'est-à-dire le fait que vous pouvez rentrer d'une destination qui est peut-être une destination commune, mais en pouvant expliquer à vos amis, à votre famille, que vous y aviez vécu des choses que les autres ne vivent pas, et c'était d'ailleurs quelque chose qui était recommandé par les guides, y compris les grands guides de voyage de la seconde moitié du 19e siècle. Et aujourd'hui, on voit ça, il me semble, hein, sur les plateformes ou les réseaux sociaux ou dans les échanges. Par exemple, il y a des sites qui vous permettent d'identifier les destinations dans lesquelles vous avez le moins de chances de rencontrer d'autres touristes. Et on vous donne même le nombre de touristes qui sont présents, par exemple, et on ne parle pas uniquement des pays dangereux, hein, des pays qui sont chouettes à voir, dans lesquels vous allez pouvoir vivre les mêmes expériences que vous y vivriez dans des pays à peu près comparables, mais là, vous, en plus, vous n'aurez pas de tourisme. Alors c'est ce qui fait que on va plébisciter Belize ou le Togo sur ce genre de site. Alors même que c'est à l'usage de la totalité de la communauté des internautes.
C'est ça, c'est en fait que les réseaux sociaux peuvent créer un imaginaire de l'authenticité, c'est-à-dire voilà, je prends mon sac à dos et je pars seul et je vais rencontrer personne. On va pas dans un hôtel, mais dans une cabane ou dans un appartement avec la petite gargote d'habitués et pas la grande chaîne de restaurants.
Mais il faut comprendre que l'authenticité.
Et en même temps, on a les commentaires des autres voyageurs qui nous rassurent et qui nous laissent jamais vraiment seuls. Il y a des quartiers qui échappent au circuit alors qu'ils sont déjà en train de devenir en fait le circuit, c'est ça Sylvain Vénard?
Oui, alors ce qu'il faut, c'est ça, à condition de bien vouloir admettre que l'authenticité elle-même, elle a une histoire, c'est une valeur qui a une histoire. C'est-à-dire cette idée qu'on vit dans un monde qui court à l'inauthenticité, parce qu'au fur et à mesure qu'on se déplace, on va toujours vers les mêmes lieux, parce que les modes tendent à s'universaliser, c'est une critique qui est constitutive du tourisme depuis l'époque romantique. C'est ce que dit Théophile Gautier quand il dit que quand il va en Espagne ou quand il va en Égypte, finalement il retrouve partout la même rue de Rivoli, qu'il n'y a plus... Il n'y a plus d'exotisme, alors que c'est précisément la même époque qui codifie l'exotisme. Ou c'est ce que disent les grands romanciers d'aventure du début du XXe siècle, qui expliquent qu'il n'y a plus d'aventure possible nulle part, alors qu'ils sont précisément en train d'inventer les formes modernes de l'aventure. Et cette réaction nostalgique face aux transformations supposées de l'espace du monde, je crois que c'est quelque chose qui est au cœur même de la définition du tourisme. Alors que ça évolue beaucoup en fonction des conditions sociales et que ce soit transformé radicalement aujourd'hui par le fait que le tourisme est en train de changer sous l'effet des réseaux sociaux, mais aussi peut-être davantage encore sous l'effet du fait que la majeure partie des touristes maintenant ne viendra pas forcément d'Europe occidentale ou d'Amérique du Nord. Ça change considérablement les pratiques du tourisme, mais l'esprit demeure. Cet esprit, cette espèce de volonté de retrouver une authenticité qui est supposée avoir disparu de nos conditions ordinaires de vie, tout ça se mêlant à une expérience du temps qui n'est pas la même pendant les vacances que celle de l'année de travail.
En tout cas, il y a la volonté de construire un récit, enfin, de ce qui ressort de vos expériences jusqu'à maintenant, c'est qu'on échange avec ses semblables et on construit ensemble un récit de voyage commun. Nawel Chaouni, vos travaux de thèse portent sur la manière dont les gens perçoivent un même village via un média social qui est la série télé. Vous avez travaillé notamment sur la série marocaine, alors je ne sais pas si je prononce bien, Nat Lalam et Nana.
Oui, voilà, c'est ça. Qui veut dire fille de Lalam Nana.
D'accord. Et qui se passe dans la ville marocaine de Chefchaouen, c'est ça?
Oui, voilà, située dans le nord du Maroc.
Et donc qui a provoqué un engouement touristique que les locaux n'ont pas vu venir et n'ont pas vraiment suggéré, on peut dire.
Oui, tout à fait. Donc ce qui était intéressant dans cette étude de cas, c'est justement la question de l'authenticité, puisqu'on a voulu, à travers cette série télévisée, qui est finalement une adaptation du célèbre dramaturge Garcia Lorca, donc sa dernière œuvre. Et en fait, donc la question d'authenticité a été abordée lors de cette série, constamment abordée dans la diffusion de cette série télévisée. Et suite à la diffusion de cette série télévisée, donc il faut savoir que c'est vraiment un très petit village rural. Il y a eu un fort engouement touristique sur les sites de tournage, ce qui a été le cas aussi, pour vous donner un exemple, Plus belle la vie avec la ville de Marseille, Star Wars en Tunisie. Donc voilà, on a des exemples comme ça en tête du phénomène de ce qu'on appelle le ciné-tourisme, qui permet en fait de voir comment des destinations touristiques peuvent être boostées à travers des médias de masse, donc que ce soit à la télévision ou par des films. Et donc là, j'aimerais rebondir sur la question de l'authenticité, parce que finalement, suite à l'engouement des touristes sur ces destinations touristiques...
Et sur Chefchaouen en particulier, oui, puisque c'est votre objet d'étude.
Voilà, sur Chefchaouen en particulier, en fait, il y a eu des gros problèmes en termes de, ben justement, d'offres touristiques et de structuration de l'offre touristique suite à la grande venue de touristes dans la ville. En termes d'infrastructures, les personnes se sont retrouvées un peu dépourvues d'offres touristiques et de structuration. Donc ça, c'est un élément assez important. En fait, il y a une certaine balance à faire entre la recherche de l'authenticité et la préservation de l'environnement, que ce soit l'environnement culturel ou la préservation de l'environnement des lieux.
Et vous parlez aussi de déception des personnes qui étaient fans de cette série et qui sont arrivées sur place et qui se sont dit ah bah c'est pas aussi authentique entre guillemets, c'est pas aussi folklorique que les images de la télé nous le montraient.
Oui, en fait, finalement, on se donne une image des représentations, des lieux, des objets, des coutumes, etc., qui sont très folklorisées souvent. Et il y a des travaux de recherche qui ont été faits sur justement les objets médiatiques. Plus on est proche du sujet, et plus on est apte à dénoncer et à détecter les stéréotypes et les préjugés de tout type de production audiovisuelle. Et c'est ce qui s'est passé là. À l'arrivée, finalement, les touristes se sont rendus compte que c'était une petite ville, etc. Et aussi, j'ai fait un petit travail anthropologique auprès des habitants de la ville qui ont été très déçus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que finalement, ce sont l'altérité qui est venue à eux. Ce sont des habitants qui ne voyagent pas forcément. Et finalement, les autres se sont rendus chez eux. Et donc, ils se sont confrontés au monde. Et il y a eu une certaine déception à la fois touristique, donc à cause de manque de structuration de l'offre touristique, et une déception aussi de l'autochtone, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, finalement. On parle beaucoup du touriste, donc de la personne qui va, qui se rend, qui découvre les endroits. Et on parle très peu, finalement, de ceux qui reçoivent et comment ils reçoivent les touristes.
Sylvain Vénère, la déception, ça fait partie vous en parlez dans vos différents articles, dans vos différents ouvrages, la notion de déception qui succède à la découverte aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire qu'on y accorde autant d'importance quand on sait que le principal fait du réseau social qui consiste à se montrer soi-même dans une situation laisse de côté les aspects négatifs du voyage?
Sans doute que les réseaux sociaux renforcent encore le sentiment de devoir prouver qu'on a fait un beau voyage. Ça, c'est possible. Après, que la déception soit constitutive de l'expérience du...
Ah, nous avons perdu Sylvain Vénère. En attendant, je vais vous interroger, vous, Saskia Cousin, parce que j'avais aussi une question à vous poser. C'est que Anaël Chaouni parle de cinétourisme et vous, tout à l'heure, lors de votre première intervention, vous avez dit que les destinations, au fond, n'avaient pas tant changé que cela. Est-ce que ça veut dire que les réseaux sociaux, en termes de destination, n'ont pas changé les pratiques, que les réseaux sociaux n'ont pas changé les destinations?
Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a, c'est le tourisme fonctionne, c'est du mimétisme et une quête de reconnaissance, reconnaissance sociale, reconnaissance symbolique. Il n'y a pas une transformation. Alors, il y a quelques exemples comme ça, mais si on regarde comme un sociologue en termes de masse, où vont les gens, en fait, ça prend de l'ampleur. On voit ce qui s'est passé à Barcelone, où il y a une rupture à un moment donné, mais on voit la courbe monter, et puis à un moment, c'est totalement débordé par l'arrivée des croisières. C'est ce qui est en train de se passer à Lisbonne, c'est ce qui s'est passé ce qui se passe toujours à Venise. Mais vous voyez, c'était déjà des hauts lieux qui étaient sous l'emprise, en fait, d'une massification. Donc, c'est pas les médias sociaux qui ont amené ça. Voilà. Moi, j'ai travaillé sur... On a travaillé sur l'ensemble des données, ce qu'on appelle le big data, sur des sites comme TripAdvisor, avec Gaël Chéraron et Sébastien Jacot, sur données Airbnb, TripAdvisor, etc. On voit où les gens se promènent, où ils commentent. Alors, évidemment, il y a des gens qui mettent pas de commentaires, etc. Mais on voit bien que... En gros, on commente des choses qui sont déjà commentées. Et ceux qui sont relayés sont ceux qui sont déjà commentés. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui vont faire des photos de vide de la carte, mais en fait, ce n'est pas ceux-là qui sont relayés. Donc ça a des effets, en fait, qui sont d'accélération, plus que d'invention de nouvelles destinations. Même si, effectivement, il y a des exemples comme ça. Par contre, dans le récit, ça change quelque chose, parce que... Avant, il y a eu une expérience assez intéressante qui a été menée par un collègue qui s'appelle David Picard. Avant, finalement, on faisait son voyage, on le racontait. Et donc l'expérience qui avait été vécue, elle était transformée pour être restituée selon les attentes du milieu social dans lequel on se trouve. Et donc, souvent, on voit une différence entre l'expérience qui est vécue, le plaisir qui est pris, et puis le récit qui va reprendre les codes qui sont attendus, on a vu l'appartenant, etc. À partir du moment où le récit est immédiat, l'expérience, le plaisir de l'expérience va être immédiat aussi. Et par exemple, David montrait que donc des voyageurs allemands à La Réunion, quand il y avait un récit différent, c'est-à-dire qu'il passait 5 heures à jouer avec des petits chats et puis une promenade culturelle, ils rentraient, ils allaient raconter que la promenade culturelle et ce qu'il fallait avoir entendu. En fait, là, on est sur place et finalement, on va photographier les petits chats. Mmh. Et donc, en fait, c'est pas forcément que l'expérience est différente, c'est que le rapport au récit va transformer le récit de l'expérience. Et évidemment, quand on transforme, ça transforme aussi l'expérience. Mais ça veut pas dire qu'avant, on avait des visites culturelles et que des visites culturelles et que maintenant, on fait que enfin, des choses beaucoup plus légères. Voilà.
Nawel Chaouni, le touriste qu'on est, qu'on veut être, fait partie du voyage qu'on veut montrer ?
Oui. Certainement, parce que en fait, on prend finalement en photo, on capture les instants magiques du voyage, et on capture pas forcément les déceptions, les choses qu'on voit ou voilà. Je voulais rebondir moi sur la question de l'instantanéité en fait, qui est super importante. Oui. Donc l'instantanéité et la mobilité des usages. De plus en plus, on peut se connecter à partir d'un smartphone, on peut se connecter à partir d'appareils mobiles, tablettes, etc. Et donc on peut partager en instantané les différents instants de voyage.
D'ailleurs, il y a le sociologue Jocelyn Lachance qui a mené un travail sur le voyageur connecté, ou la possibilité en tout cas d'un voyage déconnecté. Et sur l'enquête qu'il a menée, 53 voyageurs d'aventure, comme ils sont nommés dans l'étude, sur ces 53 voyageurs, donc seuls 2 sont partis sans aucun outil numérique. Qu'est-ce que ça dit du récit que l'on veut produire du voyage, Saskia Cousin ?
Alors avant, on partait avec un carnet, un stylo, voilà. Un appareil photo. Oui. L'appareil photo, il est tel qu'on le connaît, il existe
là,
parce qu'il
là,
a été
il y a la présence
construit
public.
Pour pouvoir garder des traces. Donc il y a toujours eu l'idée que, c'est la différence avec la migration. Où le touriste, il part pour revenir et donc pour raconter quelque chose. Donc la question, c'est la transformation du média. Qu'est-ce que ça change sur l'expérience au moment où elle a lieu? Mais le fait d'emmener des outils pour raconter, je pense que c'est pas parce que les outils changent que, en fait, l'enjeu du touriste, c'est quand même de revenir et de raconter qu'il a fait l'Afrique, qu'il a fait je sais pas quoi. Donc c'est quand même une logique de distinction sociale quand on parle du tourisme. Sans oublier que la majorité des gens ne partent en vacances et ils veulent se poser entre soi, et leur objectif n'est pas de raconter quelque chose, mais de vivre une expérience de reconstitution de leur identité personnelle, collective, familiale. Mais c'est très important de se souvenir que, en fait, les gens qui voyagent, qui racontent et qui reviennent, c'est une toute petite partie. Mais ce qui change, en fait, c'est l'instantanéité, comme vous l'avez dit, du récit. C'est pas la volonté d'avoir un récit, parce qu'il y a toujours eu cette volonté-là.
Et quand on s'intéresse aux images qui nous parviennent dans les réseaux sociaux, sur Instagram en particulier, donc un réseau social pour les auditeurs qui n'en seraient pas familiers, où on partage des photos, de très belles photos, parce qu'il est possible de mettre un filtre, voilà, qu'on peut bien recadrer et bien présenter. Il y a des images de l'isolement qui nous parviennent avec les hashtags van life ou into the wild. Enfin, il y a des dizaines de comptes aux milliers d'abonnés. Ce sont des comptes assez populaires. Il y a cette figure du backpacker, de la personne qui part seule avec son sac à dos, et qui sont devenus de véritables business. En fait, où on voit des personnes qui se mettent en scène dans l'isolement, alors que comme elles sont mises en image dans cette mise en scène de l'isolement, on s'aperçoit très bien qu'elles ne sont pas seules et que du coup elles sont quand même connectées au monde extérieur. On est dans un imaginaire de l'aventure qui n'est pas forcément représentatif du voyageur type, Nawel Chaouni.
Je pense que de plus en plus le voyageur veut se positionner. En fait, il y a toute une stratégie de positionnement dans ce que le voyageur cherche à faire et cherche à démontrer. On est finalement dans une petite stratégie de communication dans laquelle le voyageur s'insère et peut se placer dans, par exemple, un voyageur éco-environnement, un voyageur voilà, qui part à l'aventure, ou un voyageur à la découverte. Et les images sont souvent des trophées aussi. On les publie, on les partage sur les médias sociaux en guise de trophées pour dire, voilà, je suis allée dans tel endroit culte et c'est important de le partager à la communauté.
Saskia Cousin,
mais vous... Gaspard Friedrich, moi seul au milieu des éléments, c'est quand même une vieille histoire. Hein. Après, il y a des gens qui vont se photographier au milieu d'une foule. Et ça, c'est encore une fois l'isolement, cette quête d'authenticité.
Vous dites que c'est plutôt un mythe.
Je dis pas que c'est un mythe, c'est que c'est une continuité qui est liée à une histoire occidentale. Les touristes asiatiques qui viennent, qui ont accédé, qui ont un autre rapport au voyage, qui a une vieille culture du paysage, qui est liée à la poésie, à la littérature, vont avoir un rapport à l'authenticité dans le tourisme qui est complètement différent, qui est l'authenticité touristique. On va dans un endroit parce qu'il est authentiquement touristique. Donc peut-être que nous et les auditeurs de France Culture sont plus représentatifs de l'isolement de Gaspard Friedrich au milieu des éléments déchaînés, mais en fait c'est une toute petite minorité des voyageurs. La plupart des gens ils sont pas forcément dans ce type de logique. Maintenant, le fait d'être suivi sur France Culture, sur Instagram, excusez-moi, ça fait partie, oui, de la construction de l'image, de l'imagerie du héros, de l'explorateur.
Sylvain Vénère nous a rejoint enfin. Sylvain Vénère, vous reprenez la discussion en cours, donc on est en train de parler vraiment de l'image du voyageur qui en fait ne s'inscrit plus dans une continuité que dans une rupture, même si les médias ont changé pour le représenter. Et vous avez souvent écrit que les pratiques distinctives sont consubstantielles au tourisme. Le tourisme qui constitue donc une activité par distinction et par principe, mais il s'agit toujours de se singulariser. Et la figure ultime de la singularité du voyageur singulier, c'est l'aventurier. En quoi il a changé cet aventurier aujourd'hui ?
Oui, alors je suis désolé, je suis dans un endroit du territoire.
Mais je vous en prie.
Le réseau ne passe pas très bien. Ce qui a changé, c'est que d'une certaine façon, ce que nous on appelle un aventurier aujourd'hui, c'est en gros une figure historique qui se constitue, disons, au tournant des 20e siècle, en quelque sorte a radicalisé cette figure du voyageur romantique et le souci de distinction et d'assomption de l'individu par l'expérience du voyage qui était au cœur de l'expérience romantique, en proposant quelque chose de neuf dont rend compte la grande littérature d'aventure de Conrad ou London, et par la suite des gens comme Malraux ou Saint-Exupéry, qui fait que ce qu'on cherche à travers la confrontation du moi et du monde, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la saisie de son destin.
De là, pardon ?
De la saisie de son destin. C'est-à-dire...
De saisir son destin.
De sens à son existence par un geste qui peut être risqué, la mort, doit fondamentalement s'écarter des sentiers battus. L'aventurier vient radicaliser en quelque sorte, ils sont très très nombreux à l'avoir écrit, des gens comme Henri de Montfred par exemple, la haine du touriste qui est consubstantielle à l'expérience touristique elle-même. C'est ce que disait d'ailleurs Jean-Didier Urbain très bien dans un bouquin qui s'appelait « La guerre, l'idiot du voyage », que les touristes, ils ont une claire conscience d'être ce que Jean Kelevitch appelait des homo ludens, des individus qui jouent avec le monde. Ça n'est pas sérieux le tourisme et ça crée une forme de mauvaise conscience.
Nawel Chaouni,
le touriste c'est quelqu'un qui passe et ça n'est pas qui reste.
Alors, Nawel Chaouni, sur cette question de la prise de risque zéro, on en est un peu là aujourd'hui, c'est-à-dire que on se met en scène souvent dans les réseaux sociaux, dans des paysages inconnus, dans une certaine idée de la solitude, et pour autant, on choisit le covoiturage au lieu de l'autostop, on choisit des lieux qui ont été déjà balisés au préalable.
Souvent, le rôle de père, enfin le rôle des influenceurs, ce que j'appelle moi les influenceurs, c'est-à-dire que des personnes ou les utilisateurs, des usagers qui font partie de notre réseau dans les médias sociaux, joue un rôle d'influenceur des destinations touristiques, mais aussi des usages, par exemple, utiliser Blablacar au lieu de prendre le train, utiliser telle plateforme, tel site internet, etc. Donc il y a quand même un rôle joué, je pense, qui ne peut pas être négligeable des influenceurs, qui est aussi intériorisé par les producteurs des industries touristiques, qui utilisent aussi, sous couvert de pseudonymat et d'anonymat, par exemple, des commentaires qui sont faits, par exemple, par le maître d'hôtel ou par les personnes, les hôteliers, etc., pour donner un peu plus de cachet et pour justement concourir aux commentaires positifs de leur offre touristique.
Il y a trois façons pour moi de gagner de l'argent aujourd'hui. Mais principal, ce sera l'affiliation. C'est-à-dire que, par exemple, si vous allez à New York, vous allez voir visiter la Statue de la Liberté, l'Empire State Building, le Rockefeller Center, plein de musts. Plutôt que de faire la queue à chaque fois, on peut prendre un City Pass qui coûte environ $120. Et j'en parle sur mon blog. Et si vous prenez un City Pass en cliquant sur le lien de mon blog, je gagnerai une petite commission grâce à cet achat. Et les deux autres méthodes, ce sera donc du coup les collaborations avec les offices de tourisme qui adorent mon travail et qui me contactent pour me dire « viens faire la même chose, mais chez nous ». Donc je fais des vidéos, des photos sur Instagram où j'ai 140 000 abonnés, des photos sur ma page Facebook aussi, bien entendu. Du coup, ça peut intéresser des potentiels partenaires. Ça peut être des offices de tourisme, ça peut être des compagnies aériennes, ça peut être des marques, tout simplement. Et le dernier, c'est un événement que j'organise de façon assez régulière à Paris qui s'appelle le Verre du Voyageur et qui a pour but de rassembler des centaines de voyageurs dans un lieu totalement privatisé le temps d'un soir. L'entrée est gratuite pour tous les gens qui viennent, mais il y a un partenaire par édition qui me permet justement de rentabiliser un petit peu l'investissement, je dirais, pour la privatisation du lieu et gagner un petit peu d'argent, du coup, grâce à ça.
Qu'est-ce que les réseaux sociaux ont fait au voyage? La question qu'on se pose ce soir avec l'anthropologue Saskia Cousin, la docteure en sciences de l'information Nawel Chaouni et l'historien Sylvain Vénère. Et là, on vient d'entendre Bruno Maltor, un Instagrammeur qui présente ce qui est devenu son travail aujourd'hui. Instagrammeur et blogueur professionnel qui voyage, un des plus suivis. Et donc, c'est ici le voyageur fabrique sa propre image, sa propre marque même, on pourrait dire. Et on pourrait se poser la question de non plus de pourquoi, mais de pour qui voyage-t-on aujourd'hui et qu'est-ce que ça implique sur ses choix de voyage, Saskia Cousin.
Alors moi, je trouve ça très intéressant, cette espèce de professionnalisation des voyageurs, parce que j'avais travaillé, il y a quelque chose qui existe depuis longtemps sur le voyage solidaire, depuis des décennies, en fait, des gens qui ont fait un peu dans les années 60 et qui sont devenus en fait des professionnels et des accueillants, notamment en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique subsaharienne. Et puis là, on trouve, enfin, mais c'était quand même pas tant de gens que ça. Et là, ça prend une dimension à la fois globale de gens qui vont surfer sur ce qu'on appelle en gros les industries créatives. Et ils font, alors il y a des gens qui vont être spécialisés dans le voyage en banlieue, dans le voyage, enfin il y a toutes sortes de choses, avec des choses qui sont assez extraordinaires et d'autres qui sont plus complexes, mais qui partent de l'idée toujours au départ de quelque chose qui s'est développé sur le mode du don contre don, hein. Ça s'appelait les ambassadeurs, les greeters, etc. C'est ça, à New York, il y a eu ce mouvement là aussi en France, ce qui existe aussi. Et puis à un moment donné, comme les gens qui accueillent des gens chez eux, ben il y a des gens qui en ont fait leur métier. Et aujourd'hui, Airbnb propose des centaines d'offres d'expériences qui peuvent être parfois dépassées une centaine d'euros. Donc moi, je pense que l'idée, c'est d'arriver à tenir un discours de distinction, de sortir des sentiers battus, et en même temps, c'est ce que vous disiez, de rester en fait sur quelque chose qui est hyper balisé.
Oui.
Et donc on a. Mais c'est en fait la définition même du tourisme.
Mmh.
L'addition du tourisme, c'est partir à l'aventure en ayant calibré en fait l'endroit où on part, comment on part, etc. Donc finalement, on a à l'échelle d'individus qui vont en faire du non-marchand traditionnel à un élément commercial à l'échelle individuelle, quelque chose qui résume en fait ce qu'est le tourisme par différence du voyage, l'exploration, l'ethnologie. Ou...
Sylvain Vénère, vous vouliez intervenir sur cette question?
Oui, parce que là, il est intéressant le témoignage de l'Instagrammeur, oui. En ce que, par rapport à ce que je viens d'entendre de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, il me semble n'apporter aucune innovation par rapport à l'histoire donc du tourisme. C'est quand même c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui met son savoir-faire au service de ce qui est en train de devenir une petite entreprise. Et moi, ça me rappelle vraiment les débuts de l'agence Cook entre les années 1840 et les années 1850. Même ce qu'il raconte sur la façon dont on peut obtenir de petites réductions en passant par lui plutôt qu'en passant directement par les institutions, c'était déjà au principe de l'agence Cook qui en faisait une des premières entreprises globales dans les années 1860-1870. Il fait la somme de cette histoire-là avec une autre qu'on connaît bien, qui est en gros, qu'on peut résumer avec 1973 et la date de création des premiers guides du routard, où là, on a une expérience fondatrice, celle qui est mise en scène par le fondateur de l'entreprise des guides du routard, au service d'une sorte d'idéal où ce sont ce qui était un petit peu les premiers guides du routard. Il y avait un petit peu cette idée que c'était des expériences directes qu'on venait collationner dans un guide en papier, au service de ceux qui se reconnaissaient dans l'identité de routard, à ce point que dans les guides du routard, vous pouvez leur écrire pour leur dire que vous avez eu telle expérience, visité tel endroit qui n'était pas dans le guide précédent, manger dans tel restaurant, et faire un petit peu communauté comme ça.
Alors, je voudrais entendre Nawel Chaouni pour finir, excusez-moi Sylvain Vénère, il nous reste très peu de temps, sur justement cette professionnalisation du voyageur. Sylvain Vénère parlait d'idéalisation dans son discours. C'est quand même ces Instagrammeurs professionnels, ces voyageurs Instagrammeurs, nous vendent du beau et du luxe et donc de l'inaccessible. Est-ce qu'ils ne sont pas en train aussi de rendre le voyage un peu plus lointain?
J'ai pas l'impression qu'on est vraiment dans l'inaccessible, on est plutôt dans l'optimisation. On a l'impression qu'il faut gagner du temps, gagner de l'argent, optimiser le temps et voir un maximum d'endroits en minimum de temps. Je pense plus qu'il y a une certaine mode qui est vraiment dans l'instantanéité, dans l'optimisation, échanger les bons plans de tel endroit, vous êtes allé dans telle destination touristique, quels sont les lieux à visiter. Et on demande de plus en plus à la communauté, à notre réseau,
de valider.
Voilà, la validation.
Eh bien, merci à vous trois d'avoir été avec nous. Saskia Cousin, anthropologue, Sylvain Vénère, historien, Nawel Chaouni, chercheuse en sciences de l'information et de la communication. Vos bibliographies, des liens vers vos travaux seront visibles sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Vous pourrez aussi réécouter et podcaster cette émission, y compris à l'autre bout du monde. Un grand merci, comme tous les soirs, à l'équipe du Grain à Moudre, Antoine Tricot, qui a interviewé l'Instagrammeur Bruno Maltor, Antoine Dulster, Marine Beccarelli, Philippine Lebray, Eva Pellerin, dont c'est le dernier jour au sein de l'équipe ce soir et que je salue particulièrement, de même qu'Alexandra Candilonguet qui nous a accompagnés toute cette semaine à la réalisation de cette émission et ce soir à la prise de son, c'était Jean-Guilain Meige. Bonsoir Arnaud Laporte.
Bonsoir à nouveau.
À nouveau.
Émilie Chaudet. Il reviendra lundi.
Mais oui, il reviendra lundi.
Et vous savez de quoi il parlera lundi?
Il parlera de Daesh, du chaos au chaos. Le retour des jeux de mots aussi.
Ouais, pour bien commencer l'année.